Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Steve Fortin, Marie Montpetit, bonjour.
Salut.
Salut.
Bon, bonjour à vous deux. Hey, je vous lance avec une question rhétorique à laquelle, par définition, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça sert à quoi le NPD? C'est une question un peu méchante. Oh. Steve, je commence avec toi, je fais un peu exprès.
Question quiz.
Oui, Alexandre Boulris, qui est député fédéral de Rosemont-la-Petite-Patrie, donc du NPD, a dit que là, en gros, il n'y en avait pas de problème avec l'idée de vouloir baliser le recours à la clause nonobstant. Il doit être pas mal dans les seules voix québécoises qui dit ça. Est-ce que le NPD du Canada est branché sur le Québec?
Là? Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec Alex Boulris. Je l'avais connu à l'époque où on avait formé le NPD, ben le Québec solidaire NPD. On est rendu, c'est tellement rendu proche Québec solidaire puis NPD.
C'est un lapsus freudien, non?
Désolé, c'est peut-être la couleur.
Moi, mais, je pense que Steve, il partage la même passion pour les
Je reconnais plus le Alex Boulris que j'avais côtoyé de loin, là, à cette époque-là d'un groupe de gauche. Puis, ce que je vois en ce moment au NPD. Puis, tu sais, c'est une chose de dire, je vais adopter ou je vais épouser la ligne de mon parti, mais tu sais, il fut un temps où ce caucus-là, il y avait un caucus en 2011, un caucus québécois fort dans le NPD, même que c'est par le Québec qu'on voyait à l'époque où il y avait eu la vague orange, une renaissance de ce parti-là nationalement, mais en passant par le Québec tellement on pensait qu'on était capable de jeter des bases solides. Puis rappelons-nous de Ruth Hélène Brosseau, de qui on s'était moqué peut-être un petit peu au départ parce qu'elle avait eu, elle avait été élue députée en dépit du fait qu'elle s'était même pas présentée dans son comté. Je pense qu'elle savait même pas c'était où. Puis au final, elle a fait un travail de députée qui a été très apprécié par les différents intervenants, par exemple au municipal dans son comté. Puis là, on est rendu en quelque part d'autre complètement où le NPD a pris un virage qui me fait penser un petit peu au virage qui a été pris par les partis verts du Canada et du Québec sur les questions identitaires, qui les éloignent de plus en plus finalement du Québec. Et dans ce cas-ci, on se serait attendu à ce que Alex Boulris puisse être un petit peu comme une genre de caution des consensus québécois à l'intérieur de son parti. On lui demande pas d'aller aussi loin que le Bloc québécois ou de devenir une pâle copie d'un député du Bloc. C'est pas ça qu'on veut. Mais il me semble que quand j'écoute tous les partis en ce moment sur cette question-là, il se dégage quelque chose qui a pris un peu naissance en 1982 avec le rapatriement de la Constitution, mais qui va jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas un seul parti qui l'a signé, cette Constitution-là. Puis au Québec, ça a fait consensus, ça. Et là, ce qui est en train de se passer d'une drôle de façon, c'est que le petit peu d'espace de décision qui restait post-82 qui avait été prévu par le père Trudeau, ben le fils est en train de travailler à réduire ça comme peau de chagrin. Puis, on aurait aimé que Alex Boulris, dans son parti, soit un genre de caution, puis qu'il se rallie un petit peu à ce qui se passe ici, mais c'est pas ça. Il a décidé que, finalement, il couchait directement dans le lit des libéraux. Puis, on se demande, rendu là, pourquoi ces deux partis-là ne fusionnent pas, tout simplement, parce que il y a de moins en moins de raisons, il y a de moins en moins de choses qui les éloignent. Puis, je le lis beaucoup, ça, dans les commentaires que je vois là au Canada anglais, dans les articles que je lis. Beaucoup d'observateurs se demandent de plus en plus pourquoi ces deux partis-là, finalement, ne font pas que fusionner.
Mais donc, Justin Trudeau braque à gauche. Son geste sur la clause nonobstant, c'était clairement pour protéger son flanc du NPD. Alors, Marie, est-ce que le NPD va être encore un facteur ou Justin Trudeau va manger son lunch complètement, là?
Ben écoute, tu sais, moi je suis vraiment pas surprise parce que Steve, ce qu'il nous dit, c'est pas à quoi, tu sais, juste à quoi sert le NPD, c'est à quoi sert Monsieur Boulris, là, tu sais, dans l'équation comme représentant du Québec. Mais tu sais, tant qu'à ça, l'ensemble des députés du Parti libéral du Québec, du Canada, excuse-moi, qui sont élus aussi au Québec, sont dans la même situation. Puis tu sais, faut pas perdre. Moi, comme je dis, je trouve pas ça très surprenant dans la mesure où le NPD historiquement c'est un parti qui est relativement, pour ne pas dire très centralisateur. Donc, tu sais, à la base, c'est pas une position qui est surprenante de leur part. Une fois qu'on a dit ça, ben, tu sais, si on exclut l'implication que peut avoir la clause non-obstant, parce que on sait pas ni si ni quand le gouvernement fédéral va s'adresser à la Cour. On peut pas prendre pour acquis non plus que la Cour suprême va choisir d'interdire l'utilisation de la clause non-obstant alors que ça se fait depuis 40 ans. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que politiquement, tu as le voyage de noces, je sais pas comment on peut appeler ça, entre le NPD puis le PSC, qui la belle histoire d'amour ou en tout cas ce flirt débutant qui continue. Puis de l'autre côté, ben là on reprend les bonnes vieilles chicanes. Ça fait longtemps qu'on en avait pas eu sur ce genre d'enjeu-là, les bonnes vieilles chicanes fédérales provinciales entre Justin Trudeau qui est quand même relativement à la veille d'une élection fédérale. Donc là, ça le met dans une posture de « je défends la veuve, l'orphelin, les minorités », posture qui lui va toujours très bien. Et de l'autre côté, tu as François Legault qui, lui, est à la veille d'une retour à l'Assemblée nationale, qui le met dans sa posture de capitaine Québec et « je défends la posture Québec ». Donc, on a deux premiers ministres qui sont extrêmement gagnants dans cette situation-là. Une fois qu'on a dit ça, je rallie assez bien... je pense que c'est Michel David dans Le Devoir qui le mentionnait ce matin, José Legault aussi dans le journal de Montréal, qui tous deux disaient, tu sais, les Québécois en ont plein les bras entre l'inflation, les taux hypothécaires, la pénurie de main-d'œuvre, la crise du système de santé. Je suis pas sûre que ces enjeux-là vont ébranler beaucoup le quotidien des Québécois. Là, je pense pas que personne est assis sur le bout de sa chaise en train de voir comment ça va se finir comme histoire. Là.
Ouais, peut-être que finalement, c'est les thèmes de Pierre Poilievre qui vont l'emporter. Lui qui a décidé clairement de rester si on avait des voix là, comme sur l'autoroute, là, lui, c'est l'inflation, l'insécurité économique, la frustration par rapport au coût de la vie, ce dont il veut parler, puis il essaie de rester très, très loin de tout le reste. Fait qu'en gros, ce que je vous entends...
Je sais pas si vous avez vu le sondage très intéressant sur qui sont on a sondé des gens de tous les partis à travers le Canada. Quel est votre premier ministre du Canada préféré? Puis quand on regarde du côté des sympathisants conservateurs au Québec, Brian Mulroney est largement en avance au Québec. Puis j'ai vu ce commentaire-là passer. Pierre Poilievre aimerait beaucoup séduire l'électorat qui avait jadis appuyé un peu, mais beaucoup, beaucoup Brian Mulroney.
Ouais, ben là, il est mieux d'aller lire son livre d'histoire jusqu'au bout, là, parce qu'il va voir que la base électorale, Brian Mulroney, c'est un progressiste conservateur. Pas sûr qu'on peut dire ça de Pierre Poilievre.
On n'est pas dans le même profil de personnage.
Non. Puis pas la même hauteur non plus. En tout cas, pas jusqu'à maintenant, là. changeons de capitale. Allons à Québec. Alors, François Legault, qui, tel un président de la française, rencontre les différents chefs de parti, chacun leur tour. Il les a tous faits. Il en restait un. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que l'exercice, ça va avoir été très payant pour François Legault? Marie, comment tu vois ça?
Ben oui, c'est super payant pour François Legault. C'est comme si c'est comme s'il venait d'obtenir les questions de l'examen avant de se présenter à l'examen. Parce que dans le fond, il a rencontré les chefs de parti. Tu sais, là, la période de questions, là, ça recommence, là. Donc, c'est plus d'une trentaine de questions auxquelles le premier ministre doit faire front chaque semaine avec les trois périodes de questions qu'il y a. Puis là, il est allé voir. Moi, là, on s'était tout fait conseiller ça comme ministre. On se faisait toujours dire, appelle ton vis-à-vis au PQ puis à la CAQ, ton porte-parole, ton critique, fais une bonne rencontre avec. Puis là, tu vas avoir toutes ses priorités puis les enjeux qui le préoccupent puis qui l'inquiètent. Ça te permet évidemment, ben oui, de travailler en collaboration avec et tout, mais ça te permet aussi de te préparer pour des questions champ gauche qui pourraient arriver dans une période de questions. Donc là, François Legault vient de faire ses rencontres avec les quatre chefs de parti. Ça lui permet de vérifier est-ce que les chefs de parti sont toujours est-ce qu'ils logent encore sur les mêmes priorités que lors de la dernière législature, lors de la campagne électorale, ou est-ce qu'ils ont changé de discours? Et là, ça va lui donner tout un avantage. Il va se présenter en période de questions dans quelques jours avec des S, là. C'est sûr qu'il va être prêt, là. Il peut monter toutes ses réponses d'avance.
Steve, est-ce que tu penses que ça va être très payant pour lui ou à un moment donné, c'est des listes d'épicerie auxquelles François Legault pourra clairement pas dire oui à tout, là?
Ben, OK, oui, c'est vrai, il y a un aperçu de ce dont les partis veulent parler, mais c'est pas exclusif comme liste, puis il va y avoir d'autres défis qui vont se présenter. Puis on va le dire de toute façon, là, moi, quand je regarde ça, c'est vrai que François Legault fait un bon coup, il rencontre tous ces gens-là. Par la bande aussi, on le rappellera, il a donné une certaine légitimité à Éric Duhaime qui lui avait refusé en lui donnant les clés de l'Assemblée nationale, puis un bureau, puis pouvoir faire ces conférences de presse-là. Donc, il y a quand même eu plus de autour de 500 000 voix. Donc, on dit, on va inviter Éric Duhaime. Mais dans tout ça, là, dans cet exercice-là, François Legault, il est capable aussi de jauger un petit peu de l'état des forces de ses adversaires politiques. Puis, il va réussir aussi à déterminer, selon les différents sujets, quel sera son adversaire principal. Tu sais, sur les questions identitaires, il sait déjà ça va être qui son adversaire principal. Par rapport à la joute aussi à l'Assemblée nationale, on le sait qu'il aime bien être capable d'instaurer une espèce de duel entre lui et Gabriel Nadeau-Dubois parce que ça le sert bien.
Oui, mais c'est les frères ennemis, les deux. C'est-à-dire, autant le PQ et le Parti libéral du Québec se nourrissaient un l'autre. Oui. Ce que François Legault veut faire, c'est de s'assurer que son adversaire soit QS. Parce qu'il peut manger le lunch des deux autres, là.
Oui, il est pas fou vas-y.
C'est un enjeu de wedge issue, tu sais. Non, mais c'est un enjeu de wedge issue, là. Quand t'es en campagne électorale, oui, tu sais, on l'a entendu pendant la campagne électorale, à un moment donné, les gens disent, ben, c'est tout pareil. Donc, c'est quoi qui va mobiliser comme électeur, comme citoyen à me déplacer puis à aller voter? Ben, on vote souvent contre quelque chose ou on va voter parce qu'il y a une crainte. Comme je le dis, c'est le référendum, ça a été ça pendant des années. Après ça, il y a eu des questions plus identitaires comme la charte des valeurs qui a mobilisé beaucoup, beaucoup pour faire vote le PQ en 2014. Donc, François Legault, il fait 20 ans qu'il fait de la politique, il sait très bien comment ça fonctionne. De toute façon, le PLQ, c'est ça, il a mangé le lunch puis il n'y a pas de différenciation. Donc, faut qu'il aille laisser entendre que le parti qui pourrait prendre le pouvoir est celui qui est le plus loin des valeurs de ses propres électeurs.
Ah, ça, c'est bien dit. Je vous arrête là-dessus, on manque de temps, mais mettez ça sur votre radar, là, parce que nos auditeurs vont vouloir vous entendre. C'est quoi l'avenir du Parti libéral du Québec et sur quelle base ça doit être reconstruit, s'il y en a un? On va se reparler de ça pour sûr. Marie, mon petit, et Steve Fortin, merci beaucoup. Bye-bye.
Bye, à demain.